Florence Weber, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sociologue et anthropologue, professeur des universités à l'École normale supérieure, où on peut dire que vous avez formé des générations de chercheurs à l'enquête de terrain, à l'enquête ethnographique. Et nous avons souhaité vous recevoir aujourd'hui pour évoquer vos travaux et notamment vos travaux sur la parenté quotidienne et de manière plus générale sur la famille telle que vous pouvez l'avoir appréhendée à travers vos travaux, les travaux que vous avez menés depuis une vingtaine d'années dans une approche très particulière et qu'on va essayer de développer. Alors, juste pour ouvrir un peu cette discussion, je voudrais citer une phrase très très belle que vous avez énoncée dans un entretien que vous avez donné il y a quelques années. Et vous dites, pour résumer votre démarche, faire de l'ethnographie contre la philosophie, faire de l'anthropologie contre le structuralisme et faire de l'ethnologie de la France contre l'ethnologie exotique. Alors, ma première question, ça serait en quelque sorte de vous demander qu'est-ce que ça peut vouloir dire de faire de l'anthropologie de sa propre société?
Alors, ça me paraît un point extrêmement important. Effectivement, quand je suis entrée dans l'anthropologie, j'avais l'intention de travailler sur des sociétés matrilinéaires et en particulier sur les Touaregs d'Afrique du Nord. Et j'avais rencontré un certain nombre d'anthropologues originaires de ces sociétés et il m'avait semblé qu'il fallait leur laisser la place, ce qui était assez naïf, mais en même temps qui m'a poussée à revenir sur la France. C'est un mouvement qu'ont fait beaucoup d'anthropologues, même un peu plus âgés que moi. Alors je pense que c'est difficile de répondre à cette question parce que maintenant ça me paraît extrêmement évident. Le point important, c'est qu'on importe sur nos sociétés un regard qui est un regard formé par toute l'histoire de l'anthropologie, c'est-à-dire formé par l'expérience que les anthropologues ont eue des sociétés différentes. Donc c'est une espèce de façon de se décaler par rapport à l'évidence qu'on a quand on vit ici. Donc je pense que c'est ça le point de départ par rapport à d'autres disciplines. On se décale non pas avec les statistiques ou avec un certain nombre de techniques plus ou moins, de méthodologies plus ou moins protocolaires. Mm-hmm. On se décale parce qu'on a une espèce de connaissance, comme si on était soi-même originaire d'une autre société qu'on arrive en France. Donc c'est un peu le persan, quoi. C'est un peu, comment peut-on être persan?
Voilà, c'est l'actualisation de l'être persan de Montesquieu, c'est se mettre quand même un étranger dans sa propre société. Donc c'est plutôt le décentrement, ça serait le point, ouais, commun avec l'anthropologie telle qu'on la connaît en France, donc notamment l'anthropologie structurale, pour le dire d'un mot. Mais du côté on pourrait dire du côté des différences avec cette anthropologie, parce que dans cette phrase, l'anthropologie contre le structuralisme, c'est peut-être beaucoup, une attention beaucoup plus grande dans votre démarche, en tout cas, à la singularité des cas, à la singularité des configurations, et j'allais dire une méfiance par rapport au système ou au grand modèle explicatif, notamment pour ce qui concerne la parenté.
Alors, j'ai l'impression que ça aussi, c'est un effet de génération, c'est-à-dire que dans les années où j'ai commencé à travailler, les grands systèmes, on était fatigués de ces grands systèmes. C'est-à-dire que le point de départ de l'ethnographe, c'est de partir du terrain, donc c'est de partir des gens, c'est de partir des rencontres, c'est de partir de ce que disent les gens et de ce qu'ils font. Et du coup, peut-être on peut tendre vers un modèle, mais on ne peut pas partir du modèle. En gros, si on part sur le terrain avec un modèle, on ne trouvera jamais rien d'autre que ce modèle. Et du coup, pour moi, c'est une des erreurs que font les étudiants ethnographes quand ils arrivent sur le terrain avec déjà dans la tête tout le système qu'ils veulent y retrouver, parce qu'à ce moment-là, on l'y retrouve. Et donc, enfin, en tout cas, on a de grandes chances de le retrouver. Et du coup, il y a un élément de découverte dans le terrain. Il y a un élément heuristique, il y a un élément de... Bon, ce que je raconte toujours, c'est la question de la surprise. Si on va sur le terrain et qu'on n'est pas surpris par ce qui s'y passe, il y a peu de chances qu'on en sorte véritablement quelque chose. C'est la surprise qui fait avancer la connaissance.
D'accord. Du coup, c'est cette surprise, enfin, c'est cette... finalement, cette attention à chaque fois à la rencontre et finalement à la singularité de ce qui se passe dans le contexte du terrain, de ce que vous dites. Le terrain, en quelque sorte, passe avant la théorie, ou c'est le terrain qui va. Enfin, c'est une démarche totalement inductive.
Oui, de ce point de vue, tout à fait. Cela dit, ce n'est pas seulement la rencontre et la singularité, c'est aussi la façon dont les choses se passent. Et du coup, on attend, quand on comprend ce qui s'est passé sur le terrain, on n'attend pas seulement la singularité du moment, on attend quelque chose qui est de l'ordre du processus. Et ce processus, lui, il est généralisable. C'est-à-dire qu'on n'est pas enfermé dans ces singularités de terrain. Il y a des espèces de choses qui reviennent, y compris dans les erreurs de terrain, dans les difficultés d'entrée, dans les façons dont certaines portes se ferment et dont d'autres s'ouvrent. On a quand même des processus qu'on connaît et qu'on retrouve et qui permettent de comprendre ce qui s'est joué sur le terrain, c'est-à-dire en gros, qui vous a pris comme un allié, qui a considéré que surtout il ne fallait pas qu'un étranger vienne regarder ce qui se passait. Et donc, du coup, on a aussi une capacité, je pense, à faire attention à ce qu'on ne soit pas complètement manipulé par les enquêtés, parce que quand même un des grands risques de l'enquête ethnographique, c'est d'être manipulé par certains qui veulent vous faire comprendre ce qu'ils veulent. Et voilà, ça fait partie du...
Oui, du coup, ça appelle une attention, ce que vous dites, une attention très très, une grande vigilance par rapport aux stratégies, y compris les stratégies des enquêtés dans la relation d'enquête. Mais j'allais dire, en rebondissant sur ce mot de stratégie, c'est un peu un concept que Bourdieu a beaucoup utilisé. Et il y a peut-être certains de ses travaux qui ont eu une importance pour vous, qui avaient vos premiers travaux. On portait, je crois, sur des villes ou des petites villes, des petits villages, des villes moyennes, où vous étudiez les relations que les travailleurs d'usines avaient en dehors de l'usine, enfin tout ce qu'ils faisaient en dehors de l'usine. Et peut-être dans le cadre de ces travaux, ou peut-être même encore avant, vous aviez pu mobiliser ce que Bourdieu avait écrit, notamment dans Le bal des célibataires, sur les stratégies de reproduction des groupes paysans. Et est-ce que ce Bourdieu-là, qui est peut-être en phase de redécouverte aujourd'hui, est-ce qu'il a eu une influence, et ces dimensions de stratégie, de reproduction des groupes, ont influencé votre vision de votre métier d'ethnographe?
Alors, je pense que le Bourdieu ethnographe a eu sur moi une énorme influence. C'était pour moi, le célibat paysan, c'était une bible, c'était ce qui permettait de comprendre sur le terrain des questions de parenté, des questions de famille qui ensuite sont devenues centrales. Au début, non, ça a été un démarrage. Bon, c'était intéressant pour moi, mais très vite je suis arrivée à des questions autour de la culture ouvrière, des cultures populaires, où j'étais influencée plus par Michel Pialou, par exemple, que par Bourdieu lui-même, qui n'avait pas fait de terrain en milieu industriel.
D'accord. Oui, alors, pour préciser, les premiers travaux que vous aviez, je crois, publiés, portaient sur... Enfin, parmi les premiers travaux que vous avez publiés, et sur travaux sur le travail à côté, oui. Donc toutes ces formes de semi-loisirs, on pourrait dire, de jardinage, de bricolage, etc., que les ouvriers faisaient en dehors du temps de passer à l'usine et peut-être aussi en dehors du temps contrôlé par, j'allais dire, leurs épouses ou leurs mères dans le cadre de la famille. Alors, c'était les marges de liberté dans le monde ouvrier que vous cherchiez à saisir par ces enquêtes ou des formes de régulation sociale peut-être?
Alors, au départ, je voulais juste vous comprendre comment ils vivaient quand ils étaient en dehors de l'usine, en dehors de la contrainte patronale. Je voulais regarder ce qu'étaient les ouvriers quand ils n'étaient pas ouvriers, finalement. D'abord, j'ai découvert qu'ils étaient quand même très souvent pas ouvriers, qu'ils avaient une vie extrêmement riche et active en dehors de l'usine. Et puis, c'est dans un deuxième temps que j'ai compris, que je me suis intéressée effectivement à ce travail à côté, en particulier parce que je m'intéressais aux hommes. C'était une usine masculine, une usine de la main-d'œuvre était masculine. Et ces hommes étaient cherchés non seulement à être libérés des contraintes de l'usine, mais aussi des contraintes de la famille et des contraintes de l'espace domestique. Donc, c'était pas ce que je cherchais au départ. J'ai découvert au fur et à mesure qu'ils avaient ce tiers espace, hein, cet espace de manœuvre, qu'il fallait pas non plus, enfin, fallait pas non plus imaginer qu'ils étaient, que c'était si simple, enfin, que c'était tellement, enfin, ils avaient quand même toujours conscience des contraintes dans lesquelles ils étaient à la fois familiales et professionnelles. Mais ils avaient ce que Richard Hogarth avait appelé une niche de vivabilité, donc ils avaient des possibilités de rendre leur vie supportable. Et rendre leur vie supportable, c'était un espace où ils étaient à la fois très actifs, très productifs, où ils avaient une très forte sociabilité à la fois masculine et familiale, et où en gros, ils étaient... je pense qu'ils étaient heureux dans ce tiers d'espace. C'est quelque chose. Gérard Noriel avait tendance à dire que les gens qui n'étaient pas d'origine ouvrière imaginaient toujours que les ouvriers étaient malheureux et que ça le choquait beaucoup, puisque lui, étant d'origine ouvrière, savait qu'il y avait des moments de détente, de loisirs, de plaisir, etc.
Et de très forte sociabilité, parce qu'un des points de ce travail, enfin un des points, et je pense qui permet de voir la continuité de votre recherche avec les travaux que vous avez ensuite menés plus spécifiquement sur la question de la parenté, c'est que il y a différents types de, j'allais dire, d'échanges. L'échange est évidemment une notion fondamentale pour les anthropologues, pour les sociologues, mais depuis Marcel Mauss, mais pas seulement. Donc peut-être que c'est à travers ces formes d'échanges, de relations marchandes ou non marchandes entretenues par les ouvriers. Enfin, comment est-ce que vous en êtes venu, plutôt que de faire des hypothèses, je vais vous poser la question, comment est-ce que vous en êtes venu à travailler sur la parenté à partir de ces premiers travaux?
Alors, ce qui m'intéressait dans le travail à côté, c'était effectivement les échanges. C'était d'écrire les échanges, c'était d'écrire le code des cadeaux, le code des saluts, etc. Et dans le travail à côté, je m'étais rendu compte qu'il y avait une diversité de ces échanges et qu'il y avait des échanges qui étaient de type réciprocité simple, on pourrait dire. Donc, par exemple, un agriculteur prête son terrain pour le méchoui qu'organise le comité des fêtes composé d'ouvriers, et en échange, le comité des fêtes l'invite au méchoui. Donc ça, c'est quelque chose de relativement, c'est ce que j'appellerais ensuite parentèle ou réciprocité simple. C'est-à-dire, c'est un échange qui est relativement clos et qui se passe de façon, on peut dire, voilà, ça commence là, ça se finit là, etc. Et puis, il y avait un autre type d'échange qui était... très différent et que j'ai appelé la spirale des cadeaux, et où les gens étaient pris dans des situations très longues dans lesquelles on ne pouvait jamais savoir qui avait commencé, à quel moment ça pouvait s'arrêter, et où on avait une espèce de système qui ne s'arrêtait pas et qui même était de plus en plus, où on était de plus en plus pris dans ces systèmes d'échange. Et à ce moment-là, si ça devait s'arrêter, ça devenait très grave, ça devenait un conflit, ça devenait une rupture, il fallait refaire les comptes, ça devenait difficile. Et je pense que ce modèle-là, ces deux types d'échanges, je les ai retrouvés quand j'ai travaillé sur la parenté, puisque le premier type d'échange, c'était donc des liens de parentèle, et ce deuxième type d'échange de spirale, c'est ce que j'ai ensuite appelé la maisonnée. Mais j'étais partie sans question de parenté, ce qui veut dire que quand je suis revenue sur la parenté, je vais dire pourquoi dans un instant, ce que j'ai vu d'abord, c'est ce qui n'était pas officiel. C'est-à-dire ce qui faisait que c'était ce que j'ai appelé de la parenté pratique, mais après tout, c'était des types de relations qu'on pouvait avoir avec des voisins très proches, des gens qu'on connaissait depuis toujours, mais qui n'étaient pas un fils, une fille, un neveu, voilà. Donc là, je suis pas partie de la parenté officielle.
Mais c'est peut-être de l'intérêt de votre travail sur cette question de la parenté vient de là, justement, de ce point de départ extérieur, parce que du coup, c'est ce que vous venez de dire, on a un regard qui n'est pas du tout formé, ou j'allais dire, prédéfini par la façon dont les institutions sociales, au sens très large, définissent la famille, la régulent, l'encadrent et lui donnent sa signification et ses normes en quelque sorte. Donc peut-être l'intérêt du travail ethnographique, c'est de se placer en amont ou peut-être à côté, enfin dans un point de vue qui n'est pas celui des institutions justement.
Alors oui, je dirais même de l'autre côté. C'est-à-dire que les institutions fabriquent une espèce de chose qu'ils appellent les familles. Et puis, ils imposent cette définition des familles. Alors, je pense surtout au cas des personnes âgées et dépendantes ou au cas des malades à l'hôpital. Quand vous êtes malade à l'hôpital, l'obsession de l'hôpital, c'est de trouver votre famille. Mais trouver votre famille, c'est trouver une personne qui va pouvoir répondre de vous et qui sera l'interlocuteur de l'institution. Et cette définition-là de la famille par l'institution, elle peut être, je ne dis pas qu'elle l'est toujours, mais elle peut être à des années-lumière de ce que vivent les gens. Et donc, il peut y avoir une extrême violence de la part de l'institution à aller dire, par exemple, un vieux monsieur qui est là, une jeune femme arrive avec lui, et l'infirmière dit à la jeune femme, mais vous êtes qui ? Vous êtes sa fille ? Et si la jeune fille n'est pas sa fille, mais que c'est quelqu'un qui s'en occupe au quotidien et qui considère qu'elle est sa fille, cette question-là est extrêmement violente. Et donc, il y a une espèce de rappel comme ça de la parenté officielle de la part des institutions, que ce soit les institutions hospitalières ou, je pense, les institutions sociales, mais peut-être de façon différente. Et moi, ce que j'essayais de voir, c'est ce qui se passe de l'autre côté, c'est-à-dire comment les gens arrivent devant les institutions avec leur propre réseau de relations, avec leur propre idée de ce que c'est que leur famille. Est-ce que peut-être ils n'ont pas vu leur mère depuis 40 ans et pour eux, ça n'a aucun sens d'aller leur dire « Mais enfin, occupez-vous de votre mère, elle ne va pas bien, vous voyez bien. » Et les gens vont dire « Mais oui, mais ma mère, ça fait 40 ans que je ne l'ai pas vue et quand elle mourra, je n'irai pas à son enterrement. » Et ça, c'est des choses que non seulement les institutions ne voient pas, mais même les sociologues qui travaillent sur la famille ont tendance à reprendre une espèce de discours normatif qui est très, très, très prégnant, parce que la famille, c'est quelque chose d'extrêmement normé, pas seulement par les institutions.
Oui, alors qu'aujourd'hui, on va dire que la société est toujours en avance sur le législateur ou sur les institutions, parce qu'elle est beaucoup plus mobile, beaucoup plus fluide, mais sur la question de la famille, c'est particulièrement vrai. La pluralité, la pluralisation des modes d'existence familiale, le fait que les parents qui s'occupent des enfants ne soient pas forcément ou pas toujours leurs parents biologiques, ça peut même être des parents de même sexe, etc. Enfin, toutes les configurations possibles et imaginables semblent exister aujourd'hui. Et on voit qu'il y a un retard ou un décalage très très fort entre ces pratiques qui s'inscrivent dans le quotidien, donc dans le vécu, dans l'affect, dans les relations des personnes, et leur non-reconnaissance, soit sociale, soit juridique, fiscale éventuellement. Donc peut-être là, pour le coup, il y a une vraie, une vraie pertinence, non seulement sociale, mais politique du travail ethnographique. C'est-à-dire d'attirer l'attention sur des phénomènes qui ne sont pas appréhendés ou pas reconnus comme tels par les institutions sociales, sur cette question de la famille en tout cas.
Alors je dirais quand même que ça dépend des institutions. Il y a des institutions qui se sont adaptées beaucoup plus vite. Par exemple, prenez l'école. L'école a fait des efforts pour, mais même parfois un peu au-delà de ce que les gens pouvaient comprendre, a fait des efforts pour reconnaître que les enfants vivaient dans plusieurs ménages, que c'était pas leurs parents biologiques qui s'occupaient d'eux. Quand on regarde même les formulaires de l'école, on se rend compte qu'ils peuvent aller dans beaucoup de détails, y compris exiger que plusieurs signatures soient là plutôt qu'une, et du coup même peut-être aller parfois au-delà de ce que...
Peut-être un peu trop loin parfois.
Ouais. Mais par contre, il y a d'autres institutions qui par exemple, les impôts, la définition du foyer fiscal, c'est à la fois relativement souple, puisque c'est une déclaration des gens, de dire X ou Y est dans mon foyer fiscal. Et en même temps, ce n'est pas souple du tout, parce que si c'est quelqu'un qui n'a pas de lien de parenté avec vous, ou si c'est plusieurs personnes qui ont des liens de parenté un peu étranges, le fisc a du mal à prendre ça en compte.
D'accord. Et vous, en fait, vous avez un peu condensé votre réflexion sur la parenté dans un ouvrage qui est paru il y a quelques années, qui s'appelle « Le sang, le nom, le quotidien ». Donc c'était une manière, le sang, le nom, le quotidien, d'évoquer les différentes dimensions de la parenté. Et peut-être ça pourrait être intéressant en montrant que donc, ces dimensions n'allaient pas toujours de pair. Je crois que c'est un peu l'objet du livre, c'est de présenter des cas où il y a une forme de décrochage entre ces dimensions biologiques, ces dimensions de relations. Et est-ce que vous pourriez peut-être nous présenter très rapidement la démarche, peut-être l'illustrer en quelques moments, cette démarche, et qu'est-ce que ça veut dire, ces situations de décalage finalement entre ce qui est attendu d'une parenté complète, globale, et la réalité de situations qui ne s'y conforment pas toujours exactement. Et est-ce que vous pouvez en tirer, vous, en tout cas, en tant qu'observatrice et analyste?
Alors, je pense que je suis partie de la souffrance des personnes qui étaient confrontées à des situations où elle-même n'arrivait plus à penser ce qui se passait, justement à cause de du fait que les différentes dimensions de la paternité, je vais juste prendre le cas de la paternité, n'étaient pas superposées. Et du coup, elle ne savait même plus comment il fallait nommer les gens et quels étaient les sentiments qu'ils devaient ressentir. Et bon, le cas que j'ai pris et qui était un cas de procès de paternité légitime, c'était le cas d'une jeune femme que j'ai appelée Bérénice et qui avait un père biologique dont elle ne savait rien et qui avait disparu tout de suite, un père juridique qui portait son nom, disait-elle, qu'elle n'avait non plus jamais connu, mais qui avait été le mari de sa mère à sa naissance, et puis son papa, c'est-à-dire la personne qu'elle appelait papa et qui était son père au quotidien, et avec lequel elle n'avait pas de lien juridique. Et elle souffrait à la fois de ne pas avoir de lien juridique avec son père quotidien, et en même temps d'avoir ce père juridique qui est revenu quand elle a eu 30 ans pour lui faire un procès en contestation de paternité. Donc ce qui était intéressant, c'était que ce découpage entre les trois dimensions, ça avait des effets en termes de souffrance psychologique, parce que c'était pas seulement la question du droit qui n'était pas bien adapté, c'était aussi que elle ne savait plus comment penser et comment ressentir la situation.
Oui, donc finalement cet enchevêtrement de dimensions de la parenté, ça crée à la fois une grande richesse des échanges, et bon, les cas que vous montrez montrent un écheveau de relations à la fois, encore une fois, monétaires, non monétaires, affectives, en termes de soins. Et effectivement beaucoup de souffrance. Mais peut-être la question qu'on pourrait là se poser, c'est comment est-ce que ces différentes dimensions de la parenté que vous avez observées, elles se greffent, j'allais dire, à un certain nombre de débats politiques, sociaux. Et d'abord, peut-être pour rester encore un moment sur cet ouvrage, la dimension, si on prend la première dimension, le sang, on peut voir aujourd'hui, quand même, c'est tout à fait frappant. On parlait de les cas que vous présentez montrent la diversité des configurations paternelles, hein, extrêmes, et pourtant on a l'impression, enfin c'est, en tout cas c'est le sentiment que j'ai, qu'on assiste à une réduction de la paternité à une dimension tout à fait biologique. Enfin, on fait des recherches extrêmement précises. Et comment est-ce que vous interprétez ce retour à une recherche comme ça d'un fondement biologique de la paternité qui semble en décrochage total avec ce qui se passe dans la société?
Alors, je dirais que c'est justement parce que les choses sont devenues compliquées socialement que les gens se raccrochent à la biologie, et d'abord les juges. Donc ça a d'abord été une pratique, non pas du droit dans le code civil, mais des juges, quand ils avaient à juger des affaires compliquées, et que c'était trop compliqué, pour trop instable, trop provisoire pour ce qui leur paraissait pensable, ils se sont raccrochés à la biologie. Donc il y a eu véritablement un retour au biologique qui était une espèce de réponse à ce désordre du quotidien, des émotions, des sentiments. Les juges se sont dit, après tout, qu'est-ce qui reste qui est stable? C'est la biologie. Donc ça a été vraiment,
réponse est judiciaire d'abord.
Je pense qu'elle est aussi au-delà du judiciaire, elle est aussi. J'étais très surprise de voir le poids de l'idéologie du sang, non seulement chez les juges, mais chez certains de mes enquêtés. C'est-à-dire qu'il y a aussi une espèce de comme le contrat n'est plus le mariage, même l'idée qu'on s'engage pour s'occuper d'un enfant, c'est quelque chose qui risque d'être remis en cause. Donc du coup, on se raccroche au sang parce que c'est la chose qui va pas bouger.
C'est la seule chose qui finalement a une sorte de fixité générale.
C'est une espèce de rêve de la stabilité. Et du coup, je pense que ça a beaucoup de conséquences en retour, en particulier sur le fait que les engagements du quotidien deviennent, on a l'impression qu'ils sont moins importants. Alors qu'en réalité, en tout cas dans les expériences enfantines, les engagements du quotidien sont premiers. Enfin, je veux dire, l'idéologie du sang, c'est vraiment pas quelque chose qui vient de l'expérience enfantine, c'est quelque chose que les parents ou que la société impose, alors que le quotidien est quelque chose qui est tout de suite là dans l'expérience enfantine.
Bon, en tout cas, ce quotidien qui est marqué par ces formes d'idéologie, c'est ces ancrages à la fois concrets, relationnels et symboliques, il est aussi travaillé très très fortement par des institutions. On l'a dit, enfin, vous observez en permanence comment il y a ces interrelations entre institutions et puis situations quotidiennes prolongées. Et de manière générale, comment est-ce que vous pensez, enfin, on a tendance à dire souvent que le modèle social français, si on peut employer ce terme, a un fondement familialiste, c'est-à-dire qui repose sur la famille, qui donne un poids à la famille. Est-ce que cette image pour vous, elle est vraie? Est-ce qu'elle correspond à un mythe? Et au-delà de du diagnostic que vous portez, est-ce que ça vous semble, enfin le modèle ou le système de protection sociale vous semble adapté aux situations que vous observez, ou est-ce qu'il y aurait des aménagements, voire des changements plus profonds à effectuer?
Alors d'abord, famille. Familialiste, il y a vraiment famille et famille. C'est-à-dire que, et je pense pour l'instant, on n'a pas trop parlé de classe sociale, mais je pense que selon les classes sociales, famille, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Les familles qui ont du patrimoine, c'est assez simple. La famille, pour eux, c'est de l'héritage. C'est des liens de filiation. C'est se raccrocher à un passé qui est à la fois efficace économiquement et très important symboliquement. Donc ça, les familles du haut de la société, c'est très clair, pour elles, famille, c'est cet ancrage dans la lignée, ce que j'appelle la lignée. En revanche, là où le modèle social français est familialiste, c'est qu'il s'intéresse à des ménages, il s'intéresse à une économie domestique, il ne pense pas que l'individu est tout seul, il pense que les politiques sociales s'adressent à des ménages. Et là, je pense qu'il y a vraiment des choses à améliorer, enfin, ou même à repenser simplement, c'est que nous vivons sur un système inventé juste après la dernière guerre mondiale, où les deux points importants, c'était le travail et la famille, dans la mesure où les individus étaient soit rattachés directement au travail, soit ayant droit d'un travailleur. Et ça a vraiment explosé, à la fois parce qu'il y a eu du chômage de masse, donc des problèmes autour du travail, mais surtout parce que le concept même d'ayant droit d'un travailleur est devenue problématique, même si les institutions sociales ont toujours considéré que c'était du ménage et pas forcément, c'était pas la peine d'être marié, donc elles ont tout de suite repéré le concubinage et dit que les concubins étaient des ayants droit. Mais même comme ça, c'est insuffisant. Et bon, la question des familles monoparentales, évidemment, elle est prise là-dedans. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont, soit les mères doivent travailler elles-mêmes pour que tout le monde soit assuré, soit elles ne sont rien parce qu'elles n'ont pas de concubins qui travaillent.
Oui, alors d'ailleurs, c'est un point sur lequel moi je suis très 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 heureux de discuter avec vous. C'est ce que vous montrez en termes de, j'ai pas de déni du statut de parent, mais presque, enfin disons, d'emprise tutélaire, paternaliste des institutions sociales sur justement les femmes, les familles monoparentales et les femmes qui ont peu de ressources économiques. Parce que c'est vrai que dans le cadre de l'assistance sociale, c'est toujours un cadre, j'allais dire, un peu stigmatisant du point de vue symbolique, infantilisant pour les personnes. Mais ce que vous montrez, et c'est vrai que ça va quand même beaucoup plus loin, c'est que dans le cas des familles monoparentales, encore une fois, qui ont peu de ressources et qui sont tributaires de l'assistance, ben, y a une forme tout simplement de déni, ouais, on pourrait dire, de déni du parent. Comment est-ce que vous avez d'abord observé ça, et qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion et comme remède éventuel en termes de restauration peut-être de la dignité de ces personnes, ou de leur statut socio-économique?
Alors là, je pense que c'est un peu comme pour la question que vous avez posée tout à l'heure. Moi, je suis partie de la souffrance des gens que je rencontrais, et donc de leur de la souffrance de ne pas être reconnue comme mère. C'est-à-dire que l'autorité, l'idée même d'une autorité maternelle, c'est un cas où le père est tout à fait absent et la mère n'a pas de revenus propres, mais des revenus de l'assistance sociale. Et cette espèce de déni, cette espèce de sentiment que elle, cette femme, non seulement n'avait pas l'autorité parce qu'elle n'était pas le père, bon, mais que en tant que mère, elle n'avait pas fait son devoir de mère. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'extrêmement violent qu'on a vu. Par exemple, c'est quelqu'un à qui on a dit au moment où elle accouchait qu'elle pouvait accoucher sous X, et qu'on lui a proposé. Alors que pour elle c'était une violence incroyable de simplement lui proposer ça. C'est-à-dire de ne pas attendre que ce soit elle qui dise « je ne veux pas de mon enfant ». C'était comme si, par définition, vu l'état dans lequel elle était, elle ne pouvait pas vouloir de son enfant.
Oui, c'est comme...
Et c'est, bon, et c'est, donc c'est quelque chose qui lui arrivait tout le temps dans sa vie, dans toutes les situations où elle était en relation avec des institutions, toujours de bonne volonté, toujours des femmes de classe moyenne, toujours persuadées qu'il n'y a qu'une façon d'être mère, c'est la leur. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très présent dans les institutions.
Oui, ce que vous décrivez, c'est une forme d'ethnocentrisme de classe.
Absolument.
Très très fort, que vous avez, d'ailleurs c'est une réflexion que vous avez... que vous avez développé sur d'autres, enfin, sur d'autres thèmes, et vous avez montré, enfin, et étudié, vous n'êtes pas la seule d'ailleurs, Stéphane Beau l'a fait aussi, espèce de désorientation complète des classes populaires depuis une vingtaine d'années en France, peut-être la perte de l'ensemble des repères politiques, symboliques, et peut-être aussi des espaces de liberté que vous aviez étudiés. Enfin, en tout cas, toute cette désorientation, elle se cristallise peut-être dans ces situations-là, où il y a une perte, là, j'allais dire, perte d'autonomie presque totale face à des institutions qui ont récupéré leur bonne volonté, leur bonne conscience à imposer un certain nombre de normes à des populations très perçues comme très marginales et très dépendantes finalement.
Il y a toujours un soupçon sur les pauvres en général, mais c'est vrai que quand ce soupçon se porte sur les parents, sur les pauvres en tant que parents, sur les mères et les pères, ça a des effets peut-être plus affectif sur les personnes sur lesquelles ça porte. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement moral ou symbolique, c'est vraiment, on leur dit qu'ils sont de mauvais parents. Et, or, ça c'est quelque chose qu'on dit aussi à des gens qui n'ont pas de problèmes économiques et qui ne sont pas soumis à l'assistance. Le côté, la culpabilisation des parents, bon, c'est quand même, on vit là-dedans, quel que soit son niveau social. Mais évidemment, le problème, c'est que quand on est soumis aux institutions de l'assistance, eh bien, les gens peuvent vous le faire sentir. Enfin, il peut y avoir des conséquences beaucoup plus graves que si simplement on vous explique que vous êtes une mauvaise mère, mais qu'on ne va pas toucher à vos enfants parce que vous n'êtes pas en situation de...
Rassurons-nous, il n'y a pas que les parents qui sont culpabilisés, il y a aussi les enfants qui ne s'occupent pas de leurs parents, qui sont dépendants. Donc, à ça, on va rétablir un peu de symétrie dans la culpabilité. Parce qu'un des travaux que vous menez en ce moment dans une équipe de recherche avec des collègues et des doctorants, des docteurs, porte sur les formes d'aide qui sont apportées, encore une fois, dans une perspective d'approcher au quotidien ce qui se passe au quotidien dans les familles, dans les relations de proximité. Et notamment, une partie de ce programme de recherche qui est en cours porte sur le traitement de la dépendance, c'est-à-dire la façon dont les familles sont impliquées dans la prise en charge des personnes âgées dépendantes, c'est-à-dire des personnes qui sont concrètement plus en état de subvenir elles-mêmes à leurs besoins, on pourrait dire, fondamentaux. Et on sait aussi, c'est peut-être la dernière question qu'on pourrait aborder, que c'est comme un enjeu quand même de politique publique absolument fondamental, étant donné simplement la démographie de nos sociétés. Et ma question très naïve, au fond, c'est est-ce que vous pensez que ces relations de proximité, cette entraide, cette solidarité qui repose sur la famille ou sur les proches, elle va être suffisante pour gérer ce problème de la dépendance qui se présente, mais qui se présentera de manière toujours plus aiguë à mesure que les années iront.
Je dirais, bon, ça c'est vraiment c'est des questions pour lesquelles je me suis intéressée à la parenté, c'était justement de pouvoir répondre à ce type d'interrogation en regardant comment ça fonctionnait vraiment et pas simplement en déplorant que les solidarités familiales disparaissent ou en espérant qu'elles reviennent, etc. Et je pense que la première chose à faire, c'est de reconnaître ce que font les proches lorsqu'ils le font. Et je pense que c'est pas seulement une question de... Enfin, il y a des formes d'aide qui ne sont pas suffisamment reconnues d'un point de vue de politique sociale. Donc de ce point de vue, je pense que déjà donner un statut aux personnes qui aident leurs proches, qu'ils soient malades ou âgés ou handicapés, leur donner un statut social en termes de droits sociaux, C'est déjà une espèce de première chose, c'est-à-dire de reconnaître que cela existe quand cela existe. Ce qui n'est pas du tout évident. Il y a des institutions, pour prendre juste un exemple, l'hospitalisation à domicile. Donc vous rentrez chez vous, vous êtes très très malade, vous avez une équipe médicale qui vous suit. Le premier réflexe de l'institution hospitalière, pour vérifier si vous pouvez aller à domicile, c'est de voir si vous avez de la famille qui va vraiment s'occuper de vous. Donc là, c'est une institution qui repose sur la famille et qui le sait et qui fait attention à ça. Vous êtes une personne âgée dépendante, vous vivez tout seul et vous demandez des subventions, etc. Et à ce moment-là, le premier réflexe des travailleurs sociaux qui viennent vous voir, c'est que votre famille n'existe pas, elle n'est pas sympathique avec vous, et si elle est là, elle est juste pour vous embêter et pour embêter les travailleurs sociaux. Donc vous voyez bien que selon les institutions, on va avoir des représentations très très différentes de ce que font les familles. Or, bien sûr, il y a une grande diversité dans ce que font les familles. Et puis, il y a une grande complexité aussi sur qui va se retrouver en charge de la vieille dame. Pourquoi moi plutôt que mon frère ou ma sœur? Parce que je suis au chômage, je n'ai pas d'enfant, je suis une femme, etc. Donc, toutes ces choses-là, elles doivent d'abord être prises en compte. Et une fois qu'elles sont prises en compte, elles doivent être reconnues comme... quelque chose de spécial que font les gens et qui a une dignité, y compris le cas échéant en termes de rémunération ou de droits sociaux. Donc ça, c'est le point sur lequel j'insiste, parce qu'il y a quand même encore des travailleurs sociaux qui pensent, quand c'est rémunéré ou quand c'est reconnu, que les gens font ça pour ça et non pas par affection. Et là, on est fichu. Enfin, je veux dire, si on commence à dire si je suis reconnu pour ce que je fais pour ma mère, ça veut dire que je ne l'aime pas et que je fais ça pour l'argent ou pour mon intérêt personnel, on n'avance plus.
Oui, d'une manière générale, vous montrez, ça c'est une leçon de l'ensemble de vos travaux, qu'on a tout intérêt à aller au-delà d'une sorte de frontière étanche entre affection et intérêt ou relation monétaire. Je crois que, peut-être c'est peut-être un mot de conclusion, mais est-ce que pour vous, ces deux dimensions de la vie ou des échanges ont toujours partie liée?
Alors, je dirais pas forcément, mais il ne faut pas croire qu'ils sont incompatibles. C'est-à-dire que vous pouvez parfaitement faire quelque chose à la fois par intérêt et par passion ou par affection. Une chose toute bête, j'ai organisé un stage de terrain pendant 20 ans et au début, mes collègues refusaient de me rémunérer, voire de me défrayer en me disant que je faisais ça pour mon plaisir. Et il me semble que c'est tout à fait caractéristique, c'est-à-dire que oui, on travaille et on est salarié, et oui, on aime le travail qu'on fait. Et il n'y a pas de raison. Alors, on a de la chance, bien sûr. On a de la chance quand les deux sont compatibles. C'est pour ça que je vous dis, parfois, ça ne marche pas. Parfois, on fait des choses uniquement, parfois, on a un boulot alimentaire qu'on déteste. Bon, voilà, ça fait partie des choses possibles. Mais si, à partir du moment où vous faites quelque chose parce que affectivement et passionnément vous êtes impliqué, qu'on vous dise maintenant c'est pas la peine de vous rémunérer pour ça, je trouve ça vraiment scandaleux. Donc elles sont bien, ces deux dimensions, elles sont compatibles, elles sont pas toujours là, elles sont compatibles.
Florence Weber, merci beaucoup pour nous avoir accordé cet entretien. Et donc je dis simplement que une partie des travaux qu'on a évoqués ont été rassemblés dans un manuel de l'ethnographe. Donc voilà, vous continuez à former les générations de futurs chercheurs de terrain qui sera donc paru au PUF très récemment. Merci beaucoup.
Merci à vous.